peut y aller.
Vous mettez pas votre casque ?
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. De retour sur Radio Tintouin. On est content de retrouver Marie-Jo.
Bonjour Michel.
Voilà, on a invité David aujourd'hui.
Ouais, qui va, petit David, oui.
Voilà, hein,
merci Michel de ton invitation. Membre,
alors, Marie-Jo, je le rappelle, qui est secrétaire générale de l'Union locale CGT de Vierzon. Et dans le thème la rentrée sociale, on évoquera un petit peu toute notre actualité.
Tout à fait.
David, qui est membre du bureau et du secrétariat de l'Union locale. Hein, donc,
oui, oui, je m'occupe un petit peu de l'orga.
Voilà, entre
tout
autres.
Ça roule.
Hein, parce qu'il faut que ça s'organise. Hein. Et on a un autre invité, Samuel, qui est travaillé, qui est toujours donc, dans les finances, hein, les FIP,
hein,
finances publiques, qui reviendra un peu plus tard dans la saison pour évoquer différents thèmes et notamment... problèmes de fiscalité, de justice, justice fiscale et justice sociale. Je crois que les deux termes sont un petit peu liés. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous ou bonsoir, hein, selon si vous êtes matinal ou couche-tard. Heureux de vous retrouver donc pour ce rendez-vous mensuel. Bonsoir à toute l'équipe. Ce soir, on aura le plaisir, donc, et je l'ai dit, de retrouver Marie-Jo, hein, et un autre David, David à la technique, aux manettes ou aux platines, je ne sais plus comment on dit maintenant dans le jargon. Hein. Ça fait déjà quelques années, on en parlait tout à l'heure, Marie-Jo, que Radio Tintouin nous accueille dans ses locaux et on est heureux de renouveler notre confiance
à
l'équipe.
Ça fait plusieurs années maintenant.
Voilà, et on les remercie. C'est vrai que c'était une première à l'époque. On ne savait pas trop, on sortait du Covid. Et puis, c'était quelque chose qui nous était demandé, qui était apprécié. Donc voilà, on va vous dérouler un petit peu tout ça. Donc, grand merci à Radio Tintouin.
Tout à fait.
On ne changera pas notre habitude, on diffusera toujours le deuxième mardi de chaque mois, puisque certains ont pris l'habitude, qui, nous l'espérons, procurera un moment de détente, de convivialité, de partage, du moins c'est ce que nous efforcerons de faire. Tout ça pour aller plus loin dans l'information, la revendication et l'action. Pour vous permettre de mieux appréhender cette société capitaliste, pour mieux la combattre, pour trouver un autre sens à la vie, tant pour les êtres humains que l'environnement. En tout cas, la CGT s'y inscrit pleinement dans cette démarche, mais elle ne le pourra pas si elle est seule.
Mais c'est sûr.
Ensuite, c'est une nouvelle saison, et qui dit nouvelle dit forcément changement. Alors en effet, à la demande d'auditeurs, hein, et qui regrettaient de ne pouvoir nous suivre en direct, et oui, il y en avait qui bossaient à cette époque-là, hein, et qui bossent toujours, hein, tant mieux d'ailleurs. Donc ils pourront désormais la retrouver en podcast, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. En fin d'émission, David, notre technicien, vous donnera tous les détails qui vous permettront de faire cette manip et donc de nous suivre plus régulièrement. Donc, je confirme, on diffusera l'émission le deuxième mardi de chaque mois, mais vous aurez la possibilité, si vous n'êtes pas devant votre ordinateur ou votre radio, de pouvoir la reprendre autrement. Donc, normalement, il n'y aura pas d'oubli. Enfin, autre nouveauté, nous aurons régulièrement un ou des invités, et ce soir on en a même trois, donc on a mis le paquet, hein, pourquoi pas, hein, pour une rentrée, il fallait bien ça. On évoquera différents thèmes de société, l'économie, l'industrialisation, le syndicat dans l'entreprise, la défense de l'environnement, etc. Les thèmes sont, nous concernent tous dans la société, on a plein de choses à dire. Je rappelle que la CGT, si elle est indépendante, elle n'est pas neutre pour autant.
Et bien
donc
sûr.
Elle a son mot à dire dans tous les domaines.
Elle ne doit pas être neutre.
Et tout le monde peut avoir la parole. On invite tous les copains à venir nous voir et présenter des sujets sans aucun problème.
Et si effectivement il y a des choses que vous voulez voir abordées, vous nous les soumettez à l'Union locale et puis on les travaillera, y compris ensemble, hein, pourquoi pas.
Oui, d'ailleurs je rappelle l'adresse de l'Union locale, c'est 11 rue Marcel Perrin à Vierzon.
Voilà. Donc vous pouvez nous trouver. On aura des responsables d'organismes CGT qu'on a déjà vus, hein, comme Adecosa et autres, hein, qui viendront, chacun dans leur domaine, faire connaître leurs activités et des syndicats dans les entreprises. Car si la CGT revendique son indépendance, je l'ai dit, elle n'en est pas moins neutre dans les débats qui traversent notre société dans laquelle nous évoluons, puisque son rôle est avant tout la défense des intérêts tant individuels que collectifs du monde du travail, manuel ou intellectuel, mais les travailleurs sont aussi des citoyens.
Bien sûr, Michel, et d'ailleurs, on poursuit notre combat, hein. La CGT, c'est pas une histoire récente, Notre combat, bien sûr, c'est toujours les salaires, les retraites, mais des retraites dignes de ce nom. Si maltraitées ces dernières années, même voire bafouées. Mmh. Alors, on sera toujours contre les idées de l'extrême droite, car comme le disait le dramaturge allemand Brecht, le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde. Alors, évidemment que nous ne devons plus laisser dire que le RN est le meilleur représentant des ouvriers et plus généralement de ceux qui travaillent. C'est absolument faux. Il suffit pour ça de suivre l'actualité politique pour s'en rendre compte. C'est pas très compliqué.
Il n'y a pas beaucoup de domaines où ils ont défendu les intérêts des salariés
absolument,
et des travailleurs.
On est bien d'accord. Contre ces gouvernements qui tentent de nous convaincre que la seule solution qui existe, c'est la leur, messieurs, si ça marchait si bien... Eh bien, ça se saurait.
Ah ben, évidemment.
On est bien d'accord. Donc, avec des retours sur l'histoire du syndicalisme et de ce qu'elle peut nous apporter encore aujourd'hui, on est bien entendu à la CGT pour la paix, on n'arrêtera jamais de le dire, pour la paix et le désarmement. C'est dans les gènes de la CGT, l'universalisme et la solidarité entre les peuples, en guerre ou non, pour que les travailleurs, mais où qu'ils soient dans le monde, puissent vivre librement et dignement de leur travail. Ce qui augure une lutte sans merci contre cette société capitaliste où une minorité de nantis, quand même, il faut le dire, continue de se gaver sur le dos du plus grand nombre. On aime assez une image où ils nous tondent la laine qu'on a sur le dos et en plus...
Ils veulent nous la faire payer.
Voilà, ils veulent nous la faire payer.
C'est cocasse.
Tout à fait. Bien sûr, on poursuit notre combat aussi contre le dumping social, cette concurrence entre salariés pour une meilleure rentabilité financière, toujours pour cette minorité de prédateurs et d'accapareurs.
Et je précise d'ailleurs là-dessus qu'en ce qui concerne le dumping social, c'est pas, on va plus chercher très loin dans l'Asie du Sud-Est.
Et oui.
Je rappelle qu'ArcelorMittal prévoit de délocaliser en Pologne, et la Pologne, je pense que c'est en Europe.
Et ben voilà. Donc tout ça va passer par une information sérieuse, objective, libre de toute emprise idéologique, politique ou autre. C'est ce à quoi nous nous attacherons tout au long de ces émissions, toujours dans le respect de chacun et de chacune, et celui des règles de la déontologie qui prévaut. Voilà, je ne peux pas être plus long, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais rappeler rapidement les thèmes de l'émission de ce soir.
Donc, au programme.
La rentrée sociale de la CGT, la réindustrialisation de la France et quelles répercussions sur le bassin virzonais, la retraite, les moyens de la financer, parce qu'on est toujours sur du 64 ans, c'est toujours non, les agences de notation ou comment justifier l'austérité économique qu'on veut nous imposer. On va vous donner quelques dates à noter dans vos agendas et mieux que ça, il faudra les écrire bien, bien fort et bien en gras et bien en rouge. Et on poursuivra donc tout de suite notre sujet sur la rentrée sociale, Michel.
Eh bien, ça me paraît un programme assez complet, assez lourd, assez chargé, mais je pense qu'on va y arriver. Eh bien, merci Marie-Jo pour cette présentation. Peut-être une petite pause musicale pour qu'on respire.
Jean Ferrat.
Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée, aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. la faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde, aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison.
Voilà, bah, on va reprendre nos thèmes, Marie-Jo, si vous voulez bien. Oui. Alors, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, lors d'un récent point de presse, annonçait ce qui semblait urgent de faire pour améliorer la situation des salariés, mais pas que. Des solutions pour sortir de la crise qui frappe le pays depuis des décennies et qui vont, disons-le, à l'encontre de ce que propose le gouvernement Bayrou, pour le moment, notamment comment trouver 40 ou 41 milliards. Alors on en est à 43.
J'ai on ne sait plus trop, hein, Michel.
Non,
on sait plus
voilà,
trop.
Il bouge le curseur. Tout. C'est un peu comme la retraite. Hein. Ouais, à chaque fois, ça. On gratte une année, deux années, et puis voilà.
Voire donc, 3-4.
Ce qui empêche que ça attaque quand même l'échelle de la vie des gens.
Et oui.
Donc voici ce que Sophie préconise. Alors je résume, hein. Une fiscalité plus juste, des aides de l'État en direction des services publics, une augmentation des salaires, l'abrogation de la loi des retraites, départ à 64 ans, et un réel plan pour mettre fin à la saignée des emplois et contre les licenciements et les fermetures d'usines. Alors je rappelle qu'on avait identifié en début d'année un certain nombre de plans de licenciements.
Oh là là,
il y en a 300, c'était ce qui était annoncé. Hein.
Et là je crois que ça monte, enfin bon, l'hémorragie continue quoi. Alors ça peut paraître aux yeux de certains
un plan ambitieux
hein, qui change avec les vieilles recettes éculées des pouvoirs passés. Avec les mêmes arguments, donc faire payer encore plus les plus modestes en épargnant toujours les plus riches qui, eux, le sont de plus en plus.
Ah ben, ça se constate en fait, hein. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Hein.
D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai découvert que le Luxembourg, c'est plus la nation par excellence d'accueil des milliardaires maintenant.
C'est qui ?
Ça reste... Eh ben, c'est l'Italie.
Ah donc.
Alors ça semble quand même un peu inquiétant pour des gens qui se revendiquent, parce que Giorgia Meloni, qui est une amie de Bardella, tout au moins sur la même ligne politique, se propose tellement de sauver les ouvriers, je crois qu'ils accueillent un peu mieux les milliardaires
tout
qu'ils ne
fait.
Le font sur
des
l'île
aides.
De Lampedusa ou autre. Hein. Voilà.
Des aides pour les milliardaires qui attirent en Italie.
C'était la parenthèse. Voilà, donc pour tenter de répondre à toutes ces interrogations, je vous l'ai dit tout à l'heure... On n'a pas ce soir un, mais deux secrétaires de l'Union locale CGT. Donc, je rappelle, hein, Marie-Jo est avec nous et David, salarié chez Polstra, qui s'est présenté tout à l'heure. Alors voilà, on a vite brossé le tableau. Première question, quelles seraient pour vous les pistes à suivre pour un débat constructif et enfin un avenir radieux, au moins meilleur pour les travailleuses et les travailleurs de ce pays ?
Ah, et, sur ce Marie-Jo. Point, moi, je reviendrai sur les propositions de Sophie Binet, hein. Elle a tout dit, hein, une fiscalité plus juste, des aides de l'État en direction des services publics, parce que, on constate quand même tous sur le terrain qu'on les abandonne, nos services publics. Hein.
Ouais, les aides de l'État sont passées au privé, hein, 211 milliards, je le rappelle.
On est d'accord, et sans justificatif. Hein, on ne leur demande pas de justifier où passe l'argent, et ils continuent de licencier. Alors, quand j'entends des discours, moi, sur les chômeurs sont des fainéants, s'il y a des chômeurs, c'est parce qu'on les licencie. Hein.
Mais bien sûr.
Donc pas de licenciement, pas de chômeurs. On arrêtera de les traiter de feignants. Y a l'augmentation des salaires. Alors là, on a notre super Bayrou qui nous annonce une année blanche pour tout le service public. Mais où va-t-on ? Et les retraités, pour l'instant, eux, c'est pareil. Leur niveau de vie stagne. Et puis, je ne parle même pas du privé où c'est catastrophique. Souvent, les conventions collectives qui étaient là pour améliorer le code du travail. Aujourd'hui, c'est le code du travail qui est meilleur que certaines conventions collectives. Enfin, c'est carrément catastrophique. Donc, sur ces points, moi je reviens, c'est vrai, sur toutes les propositions de Sophie Binet. N'hésitez pas à aller sur le site de la CGT, où là on vous explique, il y a tout un tas de fiches, sur tout un tas de thèmes différents, on vous explique plein de choses. Il faut y aller voir, renseignez-vous, ne reprenez pas le discours du voisin qui essaie de vous faire gober ses propres idées, parce que ça aussi je trouve que ça devient un petit peu catastrophique. Faites-vous vos propres idées, allez chercher les infos, fouillez. Alors moi je parle de la CGT parce que nous on trouve que c'est la meilleure organisation syndicale. Moi je ne vous interdis pas d'aller voir ailleurs ce qui se passe et ce qu'ils proposent. Je rappellerai juste quand même un petit peu qu'il y a des organisations syndicales, ils négocient le poids des chaînes. Voilà. Donc David, je ne sais pas si toi sur ce point... tu rebondis sur ce qui est le meilleur pour les travailleurs et les travailleuses du pays.
Ce qui est le meilleur pour les travailleurs, eh bien, alors tu parlais des augmentations de salaire dans le privé. Moi qui suis dans le secteur privé, c'est une catastrophe. Il n'y a jamais d'argent au moment des augmentations de salaire. Pourtant, les résultats, ils sont corrects, totalement corrects. Donc il faut arrêter à chaque fois des augmentations de salaire, de la négo des augmentations de salaire, de nous dire il n'y a pas d'argent. Moins de 1% d'augmentation, comment voulez-vous qu'on ait un train de vie correct? Je dis bien juste correct.
Ouais, oui, c'est vrai.
Voilà.
Je voulais revenir sur le détournement des NAO. Négociation annuelle obligatoire. Je pense que ces trois mots ont un sens. Et nombre d'entreprises alors, attendent l'organisation des élections professionnelles qui est programmée en disant « bon, on va attendre les élections, on négociera après ». Donc alors déjà, la négociation est faussée. Et comme tu le disais, quand on négocie, il faut être conscient qu'on ne gagne pas. On est deux autour de la table, chacun ne gagne pas tout. Mais à un moment donné, on est sur le couloir depuis des années, malheureusement. Hein.
Oui, tout à fait.
Et avec la complicité peut-être de certains. Moi, je tire pas boulet rouge sur l'ambulance, mais à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Effectivement, les chiffres sont bons. Et puis on vous dit que bah, y a pas moyen d'augmenter les salaires. Or, les salaires, c'est le prix du travail produit.
Tout à fait.
Donc, qui se transforme en richesse dans l'entreprise. Et la question essentielle, c'est comment on répartit ces richesses.
Oui, tout à fait.
Oui, alors je voudrais ajouter sur ton questionnement sur les NAO, donc négociation annuelle obligatoire, le Code du travail, il oblige les employeurs à convoquer les délégués syndicaux pour ces négociations. Donc, ils convoquent. Il n'y a pas de souci. La première réunion, elle a lieu. Sauf que tout de suite, on te dit, bon, de toute façon, il n'y a pas d'argent.
Oui, donc la négociation
est déjà... La négociation, elle est pliée. Hein.
Les dés sont pipés d'entrée.
Ah bah, c'est pipé d'entrée.
Tout à fait. En général, c'est ficelé. Ils ont un budget pour les augmentations. Ah. Et pour faire bouger les lignes, malheureusement, c'est très compliqué.
Ah. Alors, moi, je voudrais dire un petit mot aux salariés là-dessus. C'est, mais rassemblez-vous. C'est vous qui êtes fort. La production, c'est vous qui la faites. Sans vous, ils sont rien. Ils gagneront pas d'argent. Vous avez un pouvoir énorme que vous n'utilisez pas. C'est vraiment catastrophique. Hein. Restez tous ensemble. Arrêtez de vous laisser diviser. Parce qu'eux, ils ont compris le jeu. Hein. Diviser pour mieux régner, ça, ils savent bien faire. Hein. Surtout, rassemblez-vous, restez soudés. Et vous verrez que vous obtiendrez bien plus que ce que vous croyez. Hein.
Et puis, c'est vrai qu'on est loin de cette image. On est dans une économie libérale et capitaliste. Et l'image de l'entreprise, on oublie souvent que l'entreprise, elle tourne grâce aux gens qui travaillent dedans, les salariés. Alors, il y a quelques pistes qui sont un petit peu avancées, y compris sur le plan institutionnel. On commence à parler un petit peu de responsabilité des salariés dans les choix de l'entreprise. On en est loin, je pense, dans les faits, mais il y a quand même, je dirais, un coin dans la porte.
Oui, tout à fait. Il y a quelques exemples hein, qui le prouvent. Hein. Rappelez-vous la fonderie de Bretagne, où les salariés ont quand même réussi à garder l'outil de travail en France. On peut parler un peu plus en amont aussi des verres Duralex sur la région d'Orléans, où là aussi les salariés ont réussi à garder leur outil de travail et aujourd'hui ils ont des résultats plus que corrects.
Sur ce que tu disais sur le discours qu'on entend en général, c'est vrai qu'on entend souvent dire qu'on a des super capitaines d'industrie qui font vivre des milliers de salariés. Or, c'est précisément l'inverse. C'est des milliers de salariés qui font vivre ces gens-là.
Bien sûr.
Ces capitaines d'industrie, si demain ils sont plus à la tête de l'entreprise. L'entreprise continuera à tourner et on l'a vu, comme tu disais plusieurs fois, avec des ouvriers qui sont tout à fait capables de faire tourner leurs entreprises.
Puis je rappelle que pour quitter l'entreprise, depuis la loi Macron, je veux dire, il y a quand même un sérieux delta quand on est PDG ou quand on est responsable d'un directoire que quand on est salarié, même peut-être cadre aussi. Hein.
Ouais.
Les droits ne sont pas les mêmes. Hein.
Non.
Oui. On les voit partir avec des parachutes dorés, je veux dire, ils atterrissent dans la mousse. Hein. Donc à un moment donné, et tout ça, effectivement, on commence à fouiller que c'est de l'argent public aussi. Moi, je m'excuse, mais ArcelorMittal a vécu pendant des années. Il devait sauver la sidérurgie. Alors, il délocalise en Pologne. Je vous dis, c'est pas qu'en Inde. Hein. Il part aussi chez lui, mais il revient. Donc, il s'est engraissé. Et l'an dernier, je crois que c'est 11 milliards qu'ils ont versé en dividendes. Donc, à un moment donné, on va leur dire sérieusement, rendre un peu l'argent. Alors, quand on fait un petit peu le tour de tout ça, on le verra un peu plus tard dans un sujet. Vous verrez que les milliards, on peut les trouver facilement. C'est une question de volonté politique.
Absolument.
Il faut avoir ce courage-là de le prendre.
Bien sûr. Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a dans les solutions, sur les outils de production, il y a les scopes aussi. Hein. On a 1336, par exemple, hein, cette entreprise
oui,
qui fabrique
exemples.
Du thé, etc. Ça fait déjà quelques années que les salariés ont repris. Et on ne les aide pas beaucoup, hein, par contre. Hein.
Ah non, donc, côté finance, c'est vrai que.
C'est vrai qu'on s'est posé la question sur un peu plus de pouvoir aux salariés. Comment mettre ça en place? Alors, on sait qu'il y a des travaux parlementaires sur le sujet, mais bon, ça avance pas beaucoup quand même. Hein.
Non, et puis tu parlais des scopes. Le bel exemple, c'est sur Vierzon, la Berrichonne de mécanique. Mmh. Hein, c'était une des premières qui avait été aidée par de l'argent public et notamment aidée par la municipalité à l'époque
Absolument.
De Fernand Micoureau.
Hein,
et comme quoi, quand l'argent public est bien utilisé, alors ils évoluent certes dans un monde qui leur est des fois hostile, mais ils arrivent quand même, c'est des salariés qui ont pris en main leur devenir et qui fonctionnent encore depuis déjà allez, quelques dizaines d'années, je dirais. Hein.
Sur la répartition des aides aux entreprises, je lisais tout à l'heure un rapport d'Attac qui explique que sur les 211 milliards, il y a 42% qui vont aux plus grosses entreprises, 35% aux moyennes et seulement 23% aux plus petites. Donc on voit bien que même sur l'aide aux entreprises, il y a une inégalité fiscale.
Non mais d'ailleurs, les petites entreprises, elles le disent. Hein, de plus en plus, ils mettent la clé sous la porte, on ne les aide pas, on aide les grosses entreprises. Hein, ça, c'est la politique quand même, Macron.
Et la CGT, je tiens à le rappeler, a toujours fait la différence entre entreprise et entreprise.
Et c'est ça.
Il y a le donneur d'ordre qui règle en coupe sa marche. Et puis en dessous, bah, si tu veux bosser, tu te plies à ses exigences avec des fois des conséquences sur le plan économique et social.
Absolument.
Voilà, et ben merci d'avoir essayé d'éclairer la lanterne. Je pense qu'on va pouvoir respirer qu'une petite pause musicale. À toi, David.
Comme on se couche, on se lève. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Elles veulent tirer sur nos rêves. Elles le font pour de vrai.
Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les têtes. Les petits préparent la relève. Pendant qu'on cherche la paix.
Ce monde n'a plus d'âme.
Ce monde n'a plus d'âme.
Vendez-moi un peu de rêve.
J'ai plus de temps.
Sauvez-moi ici, je crève.
J'ai plus cran.
Je veux déployer mes ailes.
M'envoler.
Je suis tellement seul, ça m'obsède.
Je cherche la paix.
On fait semblant, nos cœurs s'éteignent.
On est tous des mêmes.
Avant que la lumière s'éteigne.
J'ai tout à donner.
Vendez-moi un peu de rêve.
J'ai plus cran. Je cherche la paix.
Je cherche la paix.
Le choix c'est marche ou crève.
On veut juste exister.
Ils ont peur qu'on s'élève.
Comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles que rien ne peut réparer. Dis-moi des pensées, hein, c'est lequel qui dit la vérité.
Ce monde n'a plus d'âme.
Ce monde n'a plus d'âme.
Un peu de rêve.
J'ai plus de temps.
Laissez-moi ici, je crève.
J'ai plus grand.
Je veux déployer mes ailes.
M'envoler.
Je suis tellement seul, ça m'obsède.
Je cherche la paix.
En fait semblant, nos cœurs saignent.
On est tous des mêmes.
Avant que la lumière s'éteigne.
J'ai tout à donner.
Défendez-moi un peu de rêve.
J'ai plus grand. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous faire taire.
Je cherche la paix.
Tout miser pour toucher nos rêves.
Je cherche la paix.
Et qu'est-ce que ça peut faire si on veut quitter l'enfer?
Tout miser pour toucher nos rêves. Vendez-moi un peu de rêve.
J'ai plus de temps.
Sauvez-moi ici, je crève.
J'ai plus grand.
Je veux déployer mes ailes.
M'envoler.
Je suis tellement seul, ça m'obsède.
Je cherche la paix.
On fait semblant, nos cœurs s'éteignent.
On est tous des mêmes.
Avant que la lumière s'éteigne.
J'ai tout à donner. J'ai plus grand, je cherche la paix.
Je cherche la paix, le bonheur, quitter l'enfer. Ici j'ai peur, je cherche la paix, le bonheur, nanana.
Nanana.
Je cherche la paix, le bonheur, quitter l'enfer. Ici j'ai peur, je cherche la paix, le bonheur, nanana.
Nanana.
Voilà. Eh bien, après cette respiration musicale, Claudio Capeo et Vita, nous allons prendre le cours de nos débats avec un sujet important, la réindustrialisation de la France. Alors, on en parle déjà depuis quelques années.
Oui, on en a parlé un peu tout à l'heure.
Vous savez que tous les ans, Macron réunit à Versailles, quel cadre hein, merveilleux, sous les ordres de la République, les grands patrons de multinationales pour les inciter oui, effectivement, à venir en France. Alors, ils viennent, hein, on l'a vu tout à l'heure dans la discussion, ils ne viennent pas gratuitement
et puis
ils ne repartent pas gratuitement non plus. Donc, c'est ce que j'appellerais en gros une forme de privatisation de l'État. Bien. Donc, en ces temps de guerre meurtrière, tant militaire qu'économique, le slogan du jour à la CGT, c'est « De l'argent pour les salaires, pas pour la guerre ». C'est quelque chose qu'on continue à faire vivre et qu'il faut faire vivre.
Tout à fait. Il faudrait plutôt trouver de l'argent pour la paix que pour la guerre.
Donc, la mondialisation, ce qu'on appelle la globalisation de l'économie financière, dans l'intérêt d'une minorité de profiteurs avec l'appui de gouvernements, des fois complaisants, quand ces profiteurs ne sont pas eux-mêmes pilotes des instances. On l'a vu outre-Atlantique, hein, où c'était les multimilliardaires qui dictaient la marche. Hein. Aidés en cela par des oligarques peu scrupuleux de l'avenir de la planète et des gens qui la peuplent. Avec un capitalisme toujours aussi revanchard, dont on annonce régulièrement la fin, mais qui trouve toujours à se renouveler sans cesse.
C'est vrai.
Ce soir, on va parler de l'industrialisation du pays, ou de la réindustrialisation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a été quand même un des fleurons et à la pointe du progrès dans ce secteur. Effectivement, on était pendant des années le leader, que ce soit alors dans la sidérurgie, dans l'automobile, les constructions mécaniques, appuyé en cela par des services publics puissants. Donc l'État jouait son rôle de stratège pour donner les moyens effectivement à ces secteurs d'être compétitifs, mais sur le plan non pas uniquement financier, mais aussi social. Des grandes infrastructures de transport, notamment, etc. Donc voilà, les choix économiques de ces 30 dernières années ont fait péricliter cette activité pourtant vitale.
Ah, ben oui.
Donc, après les 30 glorieuses, est-ce que c'est les 30 fumeuses? Je ne sais pas. Dans les 20 dernières années, pour ne prendre qu'elle comme référence, nous avons perdu plusieurs milliers d'emplois dédiés avec une perte de savoir-faire et des fuites au nom de la protection de la compétitivité de l'entreprise. Alors, on parlait tout à l'heure de licenciement, des plans de sauvegarde de l'entreprise. Je ne sais pas ce qu'ils sauvegardent, mais en attendant, ça pique un peu.
Ah, en fait, dans les plans de sauvegarde, on a surtout des plans de licenciement. Hein.
Oui, donc on ne sauvegarde pas l'entreprise. Hein, voilà.
Ils sauvegardent les intérêts des patrons.
Oui, ça, c'est d'accord. Ça, d'accord.
Ah oui, ce n'était pas écrit comme ça, mais voilà.
C'est pas écrit dedans. On l'avait pas bien lu. Il faut lire entre les lignes, Mimi.
Et au fur et à mesure que s'égrènent ces plans de sauvegarde, la perte du savoir s'égrène effectivement.
Oui. Ah oui, parce que d'une génération à l'autre, on perd effectivement toute notion. Et ça contribue aussi au déclassement des individus qu'on voit beaucoup maintenant hein, et qui se rapprochent malheureusement à une chapelle ou à une autre. Donc, cette protection de la compétitivité des entreprises, vous voyez que c'est difficile, hein, est conjuguée avec les aides de l'État, sans résultat probant, voilà pour le constat. Alors la CGT lance le débat sur les perspectives et les solutions à apporter pour redynamiser notre industrie, donc fleuron de notre économie pendant des années. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, comment produire mieux sans pour cela abîmer la planète et les hommes ?
Oui.
Où et comment trouver des solutions pour lutter contre le dumping social ? Et je l'ai dit tout à l'heure, il se pratique aussi en Europe. Donc l'Europe sociale, il y a autant qu'elle est en panne.
Ah, bien sûr.
On l'attend. On essaie d'y contribuer par nos propositions au sein de la CES, la Confédération européenne des syndicats. Mmh. Mais là aussi, on a aussi un patronat revanchard qui s'accroche à ses intérêts. Donc, et les grandes messes de Macron à Versailles, je l'ai dit, venu quémander encore plus d'argent public. En cela, la France est certes très attractive, mais pour quel résultat ?
Ouais,
pour en parler,
ça.
On a donc invité ce soir nos syndicalistes pour aborder le débat. Donc, première question qu'on pourrait poser pour lancer ce débat. Pour la CGT, l'économie de guerre et de paix, c'est un choix de société, selon nous. Donc comment convaincre qu'il est préférable de financer la seconde plutôt que la première ?
C'est vrai que c'est un choix de société. Alors à la CGT, nous, le choix, il est vite fait. Hein. Bien sûr, pour nous, il faut financer la paix et faut tout mettre en place pour que cessent les guerres. Enfin, c'est absolument incroyable. Moi, je trouve qu'on est encore des pays en guerre en 2025. Alors comment faire ? La CGT, elle n'a pas de baguette magique non plus, mais je pense que si déjà on travaillait sur le fait d'éradiquer la misère, le désespoir, le chômage, la détresse, tout ça, c'est des éléments qui font que les peuples s'opposent, que les gens s'opposent, même à l'intérieur des pays. Ça alimente les conflits. Je pense que la paix, c'est un droit. On a tous, toutes, chacun le droit à la paix. Et je trouve qu'aujourd'hui, la France, la première, on est content parce que on gagne de l'argent sur la vente des armes. L'armement, aujourd'hui, ils sont débordés.
On doit être le deuxième ou troisième exportateur d'armes.
Mon Dieu, alors, effectivement, ça donne du travail à nos Français et nos Françaises. Je suis d'accord. Mais on ne peut pas donner du travail pour la paix. Et on ne peut pas trouver des solutions pour injecter de l'argent, pour financer des plans, pour remonter le niveau social des gens. Je pense qu'il y a des pistes qui ne sont pas du tout étudiées.
Oui, surtout que c'est les mêmes technologies qui peuvent contribuer à la guerre et qui peuvent contribuer à la paix, selon comment on les utilise.
C'est ça.
Tout à fait,
David.
Oui. Oui, ouais, c'est un sujet complexe. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, dans notre région, MBDA, Nexter, ils sont en pleine bourre. Ils recherchent beaucoup de personnel. Donc oui, effectivement, c'est très bien. Mais il ne faut pas profiter des conflits géopolitiques pour que certaines entreprises se gavent d'argent sur grâce à la guerre. C'est inadmissible. On est là pour nous CGTistes, on est pour la paix et non pas pour la guerre.
Oui, puis je vois quand même que dans le conflit, je rappelle quand même que l'ensemble des conflits qui ont lieu sur la planète actuellement ont fait plus de morts que la totalité des victimes de la Seconde Guerre mondiale.
Ça, on n'en parle pas trop.
Donc je voudrais quand même que nos dirigeants... Alors, Marie-Jo parlait de droit à la paix pour les citoyens. J'irais même, je rajouterais, les devoirs de nos dirigeants de l'imposer partout.
Ah oui, ah oui.
Et je veux dire, quand on tergiverse, alors, on a des relations avec les ouvriers ukrainiens, les ouvriers russes, les ouvriers palestiniens et israéliens. On a des relations avec plein de pays qui, malheureusement, vivent des situations difficiles. Mais je veux dire qu'à un moment donné, il faut dire qu'on arrête, quoi. Il faut avoir aussi ce courage-là. Alors, même si M. Macron est en fin de mandat, déroule tranquillement, eh ben, qu'il ait au moins ce courage politique. Je veux dire, la pirouette, parce qu'on déclenchait un conflit un peu plus fort d'un côté, de ne pas reconnaître l'État de Palestine, je veux dire, s'il attend la grande messe de l'ONU, bon, il y en a qui l'ont fait. Hein. Je rappelle que la Belgique, je crois que c'est hier ou avant-hier, a pris le courage, effectivement, et d'autres pays. Donc, à un moment donné, et puis arrêtons de commercer avec ces gens-là, quoi.
Oui.
C'est la première des sanctions. Moi, je veux bien qu'on arrête, on ferme le robinet du côté des Russes. Qu'est-ce qu'on fait avec l'accord européen avec Israël ? Je veux dire, à un moment donné, d'autant que là, de toute façon, les revers de l'histoire font que un jour, ça va se payer. Hein.
Ouais, moi ce que je trouve navrant dans tout ça, c'est que les victimes de la guerre, ben, sont les femmes, les enfants, les hommes, les citoyens lambda. On attaque, on bombarde des hôpitaux, des écoles, enfin.
Et cette politique de réarmement et de vente d'armes pour alimenter la guerre, hein, on va dire ça, cause des problèmes économiques en France. Hein. On le voit bien dans notre secteur industriel Vierzonais et Bourges, où comment concurrencer les salaires proposés par MBDA. Il y a une fuite des salariés vers MBDA. Forcément, les salaires, ils sont...
Ah oui, il y a un appel d'air de ce côté-là qui fait que certains salariés quitteraient leur emploi parce que le salaire est meilleur pour aller dans ces industries.
Alors, il y a eu plusieurs
salariés. Alors, il faudra peut-être leur rappeler que c'est peut-être qu'un moment, là, la surcharge de travail.
Ils partent en CDD, les gars, là. Un moment donné.
Il faut réfléchir aussi.
Voilà, donc effectivement, rappeler que cette énergie de guerre n'est jamais profitable à court et à long terme.
Oui, c'est ça.
Donc, les gens réfléchissent absolument. Sur la paix.
Il y a de la place pour tout le monde sur cette planète pour vivre et il y a aussi les ressources pour faire vivre tout le monde. Donc arrêtons de spéculer sur n'importe quoi et de créer, d'augmenter la misère.
C'est ça.
Donc on a vu que la CGT avait des propositions pour relancer l'industrie. Alors sûrement aux antipodes de ce que le gouvernement fait en ce moment. Est-ce qu'on peut en connaître quelques-unes ?
Bah, écoute, nous, on est toujours... mais c'est pas nouveau. On n'arrête pas de dire qu'il faut arrêter les délocalisations. Ah, l'État, elle doit aider les entreprises qui sont respectueuses des droits des salariés, déjà pour commencer, mais aussi de l'environnement. Et quand elle donne des aides, il faut que ces entreprises justifient de l'utilisation qu'ils ont fait de ces aides.
Ouais.
Parce qu'il y a énormément d'aides... Aucune justification. Moi, je rappelle quand même que quand on aide un salarié, moi, je sais pas, l'allocation logement, on lui demande quand même de justifier. Hein, quand on l'aide
sur les revenus, sur les conditions.
La rentrée scolaire, on lui demande de justifier de ses revenus pour qu'il ait droit à la rentrée scolaire. Hein, quand tu vas demander ta retraite, on te demande de justifier tes années de cotisation, tes années, etc. Et tes revenus et tes bulletins de salaire et tout ça. Donc je vois pas pourquoi nous, les salariés, on devrait justifier d'absolument tout et que les entreprises, on leur dit non, mais voilà, on vous donne ça, oui, faites et pas puis, de bruit, d'accord, ok, on vous donne ça et terminé.
Et puis voilà. On en est même à un stade où on demande aux gens au RSA, dont ils gagnent quelques centaines d'euros par mois, une contrepartie avec du temps de travail.
Absolument.
Quelle contrepartie on demande aux entreprises en échange des aides fournies ?
Oui. Alors, là-dessus, moi, je voudrais quand même dire que si on a les moyens de dire monsieur Intel qui est au RSA, il doit travailler pour l'État ou une entreprise quelconque 8 heures par semaine, ça veut dire qu'on peut lui faire un contrat de travail.
Ben oui,
donc il sort du RSA.
Parce que c'est ça la bizarrerie. Voilà. C'est,
la discussion,
tout travail
chez nous,
nécessite
à la CGT,
un contrat de travail.
Elle est là-dessus quand même.
Donc c'est du travail dissimulé ou quoi ?
Ah, voilà, une bonne question.
Ça mériterait d'être débattu.
Messieurs,
messieurs et mesdames les juristes, à vos crayons, à vos codes, et essayez de fouiller ça. Non, parce qu'à un moment donné, moi je veux bien aussi, là, t'as raison. On est dans un système où on aide. On aide où il n'y a pas besoin, quoi.
Mais il y a un tas d'aberrations comme ça. Enfin, c'est compliqué de les lister là sur notre émission de une heure. Effectivement, il faudrait peut-être qu'on travaille les sujets et qu'on y revienne.
On reviendra avec Samuel dans une prochaine émission sur une réforme fiscale.
La
parce
fiscalité.
Que,
alors ça, c'est
Monsieur Macron, vous êtes fort dans les réformes, mais celle-là, vous ne l'avez pas lancée. Ouais. Donc, une réforme fiscale, mais une réforme sans ça, en profondeur. Je rappelle que l'article 13 de la Constitution, de mémoire, dit que chacun doit contribuer en fonction de ses besoins à la marge de la société. Je résume. Et oui, c'est pas honteux de payer des impôts.
Ah
peut-être que même certains, dans leur citoyenneté, petitement, mais participent. Mais il faut que les autres aussi participent.
Ouais.
Je veux dire, Bernard Arnault, pour l'exemple, paye moins d'impôts sur le revenu que sa femme de ménage.
Ouais.
Donc à un moment donné, je pense pas qu'elle soit milliardaire, cette femme-là,
mais
et puis il y en a plein qui sont dans l'ombre, voilà, va falloir qu'on s'en occupe
mais
un peu.
Mais il y a une guerre contre les salariés, il y a une guerre contre les gens au RSA, il y a une guerre contre les chômeurs. L'État, enfin, le gouvernement, est en guerre contre tous ces gens-là. À un moment donné, ces gens-là, il faut aussi qu'ils soient dans la rue.
Exactement.
Et c'est indispensable pour dire, mais non, mais moi, si je suis là, c'est pas que de ma faute. Si je suis là, il y a aussi peut-être un désengagement de l'État, il y a un désengagement des décisions du gouvernement, parce que là, si on m'avait aidé à faire ça, bah, peut-être aujourd'hui, je serais un salarié lambda plutôt que d'être un RSA ou un chômeur. Si je suis au chômage, c'est parce qu'on m'a licencié. Pourquoi on m'a licencié ? Voilà. Parce qu'il faut aussi remettre sur la table les renationalisations. Évidemment.
Partiel ou total. Pourquoi pas ? C'est déjà évoqué.
Mais tout ça, c'est des sujets... Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Les gens, ils s'obnubilent sur des discussions stériles, mais les sujets importants, ils ne sont pas abordés.
Oui.
Et ça serait bien, à un moment donné, qu'on aborde ces sujets. Je vais faire une toute petite parenthèse, parce qu'elle me paraît importante, sur les attaques qu'on fait aux salariés, aux chômeurs, aux retraités. Enfin. Aujourd'hui, il y a une course contre les arrêts maladie. Mais si tu es en arrêt maladie, c'est pas pour ton plaisir, c'est que t'es malade. Et c'est que t'es souvent incapable de pouvoir gérer à 100% tes tâches. Alors tu pourrais peut-être les assumer une fois tous les 15 jours. Je vois pas en quoi ça va aider un employeur que tu viennes qu'une fois tous les 15 jours. Et aujourd'hui, quand tu effleures l'âge de la retraite, la sécurité sociale t'appelle pour te dire « Madame, vous allez avoir tel âge ». Ou monsieur, peu importe. Donc, il faut prendre votre retraite. Nous, on ne va plus vous payer d'indemnité journalière. C'est quand même incroyable. C'est catastrophique.
Avant d'arriver à 64 ans, bien sûr.
On est bien d'accord. On est loin des 64 ans. Dramatique.
Non, mais
ça, c'est la politique Macron,
Oui,
ça, c'est la politique Macron.
Puis le taux de personnes qui retrouvent un emploi avant la date limite,
on est bien d'accord.
Ça descend.
Je vais faire une autre petite parenthèse avant que je l'oublie, c'est que j'entends trop de discussions de séparation entre le public et le privé. Ah ouais, mais le public, ils ont ceci, et nous, le privé. Eh bien, écoutez, qu'on nous mette tous au niveau le plus haut. Pourquoi est-ce qu'on voudrait redescendre tout le monde en bas ?
Bien
sûr. OK ? Le public, ils ont telle chose que nous, le privé, on n'a pas. Eh bien, on met tout le monde en haut. Le public n'a pas quelque chose que le privé a. Eh bien, on remonte tout le monde en haut. Et voilà.
Il y a des contraintes dans le travail qui doivent être améliorées.
Plutôt que d'être jaloux de ce que celui d'à côté,
il a. Bien sûr, bien sûr. Non, puis on attaque toujours le salarié et le chômeur. On n'a pas parlé de l'immigration, mais pourquoi pas aussi. Donc on en parlera un peu plus tard. Voilà, c'est des sujets. Eh bien, merci d'avoir passé du temps là-dessus. On reviendra sûrement sur ces thèmes plus en détail. Hein,
oui, tout à fait. On pourrait en parler
des
heures.
Ouais. Mais on y reviendra. Donc, restez mobilisés. Et la première occasion, en fin d'émission, on vous donnera les dates qui vous permettront de nous rejoindre, parce que tout le monde est concerné, dans les temps qui courent, par un mieux vivre.
Mobilisés et soudés, Michel. Et soudés.
Dans la plus grande unité.
Ah, on est d'accord. Tout à fait. On se fait une petite page musicale ?
Ouais, avec HK et les Saltimbanques.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. 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 On lâche rien.
Bien, eh bien, après cette petite page musicale HK et les Saltimbanques, nous allons reprendre le cours de notre émission. Alors, on avait évoqué, il y a quelques mois, en mars, je crois, dans cette émission, les 10 travaux d'Hercule de François Bayrou, alors qu'il faisait suite à ceux de Michel Barnier, oui. L'éphémère Premier ministre.
L'éphémère. Hein.
Voilà. Bon, eux, ils sont éphémères, mais nous, on est encore là. Hein. Non, on est là depuis 130 ans et j'espère, oui. Je ne sais pas encore autant, encore. Mais pourquoi pas, hein. C'est le contact qu'on peut prendre. Donc, nous, en réponse à ces 10 travaux d'Hercule, eh ben, on avait avancé les 10 chantiers de la CGT. Voilà. Alors, on en avait déjà évoqué 5. Hein. On avait parlé des salaires, des retraites, de l'emploi, de la sécurité sociale et de l'assurance chômage. Alors, bien qu'ils soient toujours d'actualité, ces thèmes-là, et d'en parler et de les défendre, il nous en reste ces 5. À savoir les services publics, l'environnement, l'immigration, l'énergie et le logement. Alors tout est lié parce qu'on l'a vu avec les difficultés des salariés et de se loger, et la facture énergétique.
Parlons-en donc, des logements.
C'est donc quand tu as vu les deux, effectivement, quand il te reste sur le salaire, pas grand-chose, voilà. Malheureusement, on est dans un monde d'une grande puissance qui... Je ne sais pas quelle est la référence de grande puissance quand on voit qu'on parle de travailleurs pauvres. On a des gens qui vivent dans leur voiture parce qu'effectivement, ils ne peuvent plus se loger. Alors,
les travailleurs qui vivent dans leur voiture, il n'y a pas que les
travailleurs. Oui, non, mais tout à fait.
Et certains avec leurs enfants.
Ce qui est encore pire, ne serait-ce que pour l'avenir des mômes. Donc voilà, pour la CGT, si les premiers sont importants, ceux-là le sont tout autant. Hein. Ils sont tous liés pour permettre une existence digne, sérieuse et responsable pour chacun d'entre nous. Alors, je ne sais pas s'il y a une hiérarchie qui s'impose, mais en tout cas, ils sont tous liés à la défense des intérêts des salariés et des citoyens, qui n'en sont pas moins, effectivement, des citoyens. Ouais. Alors, on va aborder le premier thème, les services publics, qui nous sont chers.
Oui, ben oui, Marie-Jo. Oui, Samuel pourra rebondir, mais parce que les services publics, ils n'ont pas cessé de subir des coups de rabot, hein, c'est permanent depuis des années. Et si ce n'est pas des coups de rabot, c'est des coups de sabre. Les bas salaires, hein, faut rappeler quand même qu'ils ont baissé de 18% depuis 2010, hein, c'est quand même pas rien. Le manque de personnel, hein, même si Bayrou il a apparemment annoncé récemment un temps à la suppression de 4000 postes dans l'enseignement, il reste qu'il faut sauver quand même 2200 postes dans la fonction publique.
Oui, alors c'était un petit peu son artifice, ce garçon-là. Oui, hein. Oui. Il pousse le très très fort, dernièrement d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs.
Il dit oh, bah allez, je vais vous laisser sur les deux jours, je vais vous en piquer qu'un. Et puis ça, bon, pour avoir un consensus, il faut quand même pas.
Il est fort en négociation.
Il faut pas charrier, hein, pour être poli. Hein.
Donc on n'oubliera pas quand même la dégradation des conditions de travail, bien sûr, hein, et fermeture des différents guichets, etc. Enfin, y a quand même une perte de sens, il y a des burn-out quand même, on en parle pas assez, mais il y en a. Hein. Et bon, tout ça, évidemment, ça fait défaut aux usagers, ça crée un profond manque d'attractivité. Et puis, malgré cet état des lieux qui est quand même alarmant, il reste une cible dans les projets de budget du gouvernement. Et pour la CGT, les services publics, c'est un droit fondamental. Enfin, il ne faudrait jamais oublier ça. Moi, je suis fière de payer des impôts parce que je sais que ça va à l'hôpital, je sais que ça va à l'école, je sais que ça va à la, aux communes.
À la culture, enfin, ça, la tout, culture ce qui,
etc.
Tout ce qui concerne les individus.
Tout ce qui concerne les individus. Moi, ça ne me dérange pas de payer des impôts du moment qu'ils sont utilisés et bien utilisés et pas juste à gaver des gens qui n'en ont rien à foutre. Mais il y a un levier de développement et on a des réponses, nous, pour l'intérêt général. Hein.
Alors, quelles sont-elles déjà pour
la
CGT ?
La CGT, là-dessus, elle recommande d'investir en augmentant déjà au moins de 10% la valeur du point d'indice, au lieu de nous annoncer une année blanche, déjà pour commencer, et en augmentant de 4 points la cotisation retraite des caisses de retraite des agents des collectivités locales, et puis au moins de 6 points les dépenses d'assurance maladie. Voilà.
Alors, par quel ciment, justement, tout ça nécessite un financement ?
Évidemment, mais le financement, s'ils veulent, ils peuvent le trouver, Michel. Enfin, je veux dire, déjà qu'on lutte contre l'évasion fiscale, qu'on commence par ça. Et le financement, il est trouvé. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. La réforme fiscale, générale, elle peut se mettre en place. Il n'y a pas de souci. Hein. Il y a déjà la hausse des impôts aux entreprises. À un moment donné, il faut arrêter de leur faire des cadeaux. Nous, on ne nous en fait pas de cadeaux sur nos impôts. Et il devrait être fier, comme nous, de payer des impôts pour le service public. Je vois pas pourquoi on leur fait des cadeaux. La taxation des dividendes, parlons-en aussi de ça, quand même. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune, bah bon sang, ça fait des années qu'on dit ça qu'il faut le remettre. La progressivité de l'impôt, la lutte contre la fraude, l'évasion, etc. Tout ça, il faut absolument s'enclencher là-dedans. Et on va le trouver, l'argent, hein. Bien plus qu'on en a besoin.
Il existe.
Sur la lutte contre la fraude, on a eu un exemple récemment de la bonne volonté de notre gouvernement avec Éric Lombard qui avait voulu modifier un texte qui devait s'appliquer, un texte de loi qui devait s'appliquer pour lutter contre une fraude qu'on appelle la fraude Koum-Koum. En fait, c'est les gens qui possèdent des actions qui vont donner les actions à la banque avant le versement des dividendes. Comme ça, c'est la banque qui perçoit les dividendes. Comme pour elle, c'est une opération blanche, elle ne paye pas d'impôt dessus. Et ensuite, elle rend les actions et les dividendes au propriétaire initial, moyennant une petite commission. L'Assemblée avait voté une loi pour lutter contre cette fraude-là. Et Éric Lombard avait fait une petite modification sur le texte pour dire que si la banque ne connaissait pas le titulaire des actions, enfin le bénéficiaire des actions au départ, elle était exonérée. Ah. Et il a fallu la pression donc, de l'Assemblée pour que finalement ils reculent là-dessus. Mais ça montre bien que ces gens-là n'ont aucune volonté de lutter contre la fraude fiscale.
Voilà. Ouais.
Et aucun scrupule là-dessus. Je rappelle d'ailleurs que la fraude fiscale, parce qu'on nous parle de la fraude sociale, la faute. Alors, que n'a-t-on entendu ?
C'est
la fraude de RSA.
La fraude sociale, c'est pin-ups à côté du RSA.
Je rappelle que le RSA, c'est toujours dans une discussion, on dit celui-là, il bénéficie. Plus de 50% de ceux qui pourraient y prétendre ne le demandent pas. Donc la question peut se poser. Après, voilà, on a tout un tas de... Je crois que c'est 2200 niches fiscales qui ont été identifiées.
C'est à peu près ça.
Je veux dire, à un moment donné, la réforme va passer par là. Quoi.
Bah ouais, tout à fait.
Et d'ailleurs, j'engage celles et ceux qui nous écoutent à aller sur les simulateurs pour voir s'ils peuvent bénéficier d'aide. Je sais que la prime d'activité, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne la demandent pas. Et ça peut faire quelques dizaines, voire centaines d'euros en plus à la fin du mois.
Des dispositifs que les gens ne connaissent pas suffisamment, effectivement.
Oui, souvent de fois.
Tout à fait.
Voilà, bon, on reviendra dans un prochain sujet un peu plus en détail sur ces problèmes de fiscalité, de fraude et autres. Alors, concernant l'environnement maintenant.
Oui,
David.
Alors, la répression plutôt que la transition. En 7 ans, notre cher locataire, le cher locataire de l'Isère, aura accumulé les reculades sur les questions environnementales en privilégiant le matraquage des militants écologistes à l'écoute des attentes citoyennes. Sous sa mandature, les mesures de protection du vivant ont été systématiquement battues en brèche. Si le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, a exprimé son intention de planifier la transition, il n'aura évoqué à aucun moment la crise climatique en cours. Ça passe un petit peu aux oubliettes et malheureusement, c'est dramatique. Il faut y penser à l'environnement. Et ce ne sont pas les conditions vécues cet été par nombreux d'entre nous qui vont lui donner raison. Et elles devraient nous inciter à plus de sérieux dans leur démarche, mais au pays du capitalisme triomphant, point de place pour l'intérêt général. François Bayrou, en digne représentant des intérêts particuliers, des plus gros et plus préoccupés de prendre la défense de l'agriculture productiviste que d'agir en faveur du climat et de la biodiversité. Mais des signes positifs comme la mobilisation par les signatures contre la loi Duplomb, véritable bombe à retardement, mais répondant en premier lieu au lobby de l'agriculture intensive et collectiviste. Face aux mesures du plan d'adaptation au changement climatique du Premier ministre, qu'elle juge trop floues, et en réponse à celui de la CGT,
La CGT, elle a un plan en réponse à cela. Hein. Le plan d'action industrie-environnement, avec, je cite, 22 propositions.
Donc, par exemple, le plan d'isolation des bâtiments,
on a beaucoup de retard
là-dessus. Le transport décarboné, l'adaptation des infrastructures nationales au réchauffement et plein d'autres propositions encore. Avec le collectif PFAS contre les polluants éternels lancé en janvier dernier, elle fait de l'interdiction de ces contaminants toxiques pour les travailleurs et les usagers une priorité syndicale.
Oui, parce que là-dedans, il y a quand même des gens qui sont concernés à la manipulation et l'utilisation de ces produits. Et on sait ce que les conséquences de ces produits. Pour
on
mémoire.
Se rappelle de l'amiante, hein.
Voilà, j'allais le lire, le premier procès de l'amiante, je vous signale qu'il avait été initié par la CGT en 1956. Mmh. L'amiante, on a attendu quelques années avant qu'il soit purement et simplement interdit. Hein. Et on a encore malheureusement des locaux là-dessus. Et bien justement, concernant le logement, alors Marie-Jo.
Eh bien, écoute, moi, je vais rappeler que ce que disait Emmanuel Macron, hein, il disait « Avec moi, plus personne ne dormira dans la rue ».
Ah ça, oui. Faut qu'on s'en rappelle. Il était jeune à l'époque.
À moins de supprimer les rues, il n'a pas gagné le pari, hein, parce que du monde dans les rues, il y en a plein. Il y a plein d'enfants. Il y a justement un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps, là, sur ce scandale de tous ces enfants qui dorment dans la rue. Ouais. C'est catastrophique. Hein. Bayrou, histoire de nous rafraîchir les méninges, lui, rajoute qu'il faisait une mission centrale pour que chacun ait accès à un logement abordable. Et je voudrais quand même rappeler que les logements, ça n'est pas abordable, que sur un salaire, ça t'enlève la moitié de ta paye. Donc je suis désolé, on ne peut pas appeler ça abordable. Donc c'était soi-disant le cap fixé en réponse à la crise. Eh bien eux, la crise du logement, ils ne l'ont peut-être pas. Nous, on la vit. Oui, il y a une crise du logement. C'est de la responsabilité de l'État qui doit s'en préoccuper en premier chef, bien entendu. On a aujourd'hui 300 000 logements qui sont créés chaque année, mais il en faudrait 200 000 de plus. Donc, quand ils se vantent d'en créer 300 000, on est loin, loin, loin du compte. Alors, pour résumer cette combinaison de pénurie, Bayrou, il a mis sur la simplification et la stimulation. Lui, il a levé les contraintes dans le domaine de la construction. Il a relancé l'investissement locatif par un soutien aux maires bâtisseurs. Et puis faciliter les changements d'usage en transformant les espaces de bureaux en logements, etc.
Mais tout ça, ça reste vague.
Mais tout ça, ça reste vague. Hein. On est sur des discussions, point barre. Il n'y a pas d'agissement, hein. Il n'y a que dalle. Hein. Donc s'agissant du PTZ, de son éphémère prédécesseur Barnier, du statut fiscal des parents donateurs ou de l'encadrement des loyers, il s'est contenté de saluer les idées sans forcément s'engager à les suivre.
Voilà, il a dit c'est des idées, hein. C'est bien.
On est bien d'accord. Pour la CGT, la question du logement, c'est dans toutes ses dimensions. Hein, c'est financement, accessibilité, construction, réhabilitation. C'est un enjeu central. Et ça doit être débattu tous azimuts en avril dernier, lors des assises du logement au siège de la Confédération à Montreuil. Oui. Donc, au programme, bien sûr, les plafonnements des loyers, évidemment. La production de logements HLM, parce que là, c'est pareil, on a un problème, hein, on a un manque d'entretien, c'est complètement abandonné. La création d'un service public du logement, ça nous paraît indispensable. Le logement étudiant, parce que nos étudiants...
dans la période actuelle,
c'est bien compliqué
ça reste toujours
pour eux,
difficile.
C'est bien compliqué pour eux. La revalorisation du 1% patronal... ou de ce qu'il en reste.
Oui, hein. Parce que là, il a largement réduit le 1%.
On l'a oublié. Hein,
mais remettons-le déjà, on verra après, ouais. Ça aidera.
Et l'application de la loi SRU, bien sûr. Donc, en aparté concernant le logement, je rappelle quand même aux auditeurs, aux auditrices, qui peuvent toujours contacter l'association Indecosa. C'est un organisme de la CGT qui est en charge des questions qui sont liées à la consommation en général, mais dont le logement, l'énergie, les problèmes liés à l'endettement, etc. Donc, n'hésitez pas à contacter l'UL si vous avez besoin de l'Indecosa. On vous donnera les coordonnées, bien entendu.
Union locale, 11 rue Marcel Perrin à Vierzon.
Tout à fait.
On reviendra certainement dans une prochaine émission sur un petit peu le fonctionnement de l'Indecosa, un peu plus en détail.
Ah bien sûr, bien sûr. Alors, toujours en lien avec le logement, on va parler de l'énergie, parce que là c'est une grosse crise qu'on traverse déjà depuis quelques années, mais qui s'est accentuée avec la guerre Russie-Ukraine.
Tout à fait Michel, s'agissant de la politique énergétique, sujet crucial tant pour les particuliers que pour les entreprises, le locataire, toujours notre cher locataire de l'Élysée, a joué la stratégie de l'éblouissement. Comme dans d'autres domaines, soit dit en passant. En haut lieu, on est conscient du retard de la France en matière d'énergie renouvelable, du moins dans ses infrastructures. Le Premier ministre a avancé la recette miracle, la géothermie sous nos pieds, qu'il considère comme un réservoir inépuisable d'énergie décarbonée.
Ah bah allons-y alors.
Oui, mais sauf que pour l'heure, elle ne représente que 1% de la chaleur produite en France. Donc c'est bien beau d'en parler, mais il faudrait peut-être accélérer le pas sur ces sujets-là. Vous allez voir bientôt qu'il va nous dire avoir mis de côté des degrés excessifs de cet été. Non mais il est incroyable ce cher locataire.
Ah oui, heureusement qu'on n'a pas des gros hivers, hein, parce que la chaleur de cet été en bouteille, ça pourrait nous servir pour les prochaines gelées.
Oui, tout à fait Michel. Donc sans occulter la facture qui monte malgré les mensonges ambiants des grands médias qui nous font croire, en relayant l'info du pouvoir, que nos factures vont baisser. Mais de qui se moque-t-on?
Oui, hein, alors...
Parce que pour moi, la facture, elle n'a pas baissé. Enfin, je peux vous certifier qu'aujourd'hui, je consomme moins de kilowattheures, mais que ma facture... Elle diminue pas.
Oui, parce qu'ils ont augmenté l'abonnement.
Et tout à fait. On augmente les taxes. À l'aberrant marché européen de l'énergie, le Premier ministre compte finaliser la stratégie bas carbone et produire de l'énergie décarbonée, grâce notamment au nucléaire et à la géothermie.
Bonne idée.
Une fuite en avant, en quelque sorte. En attendant, chauffe qui peut.
Alors pour la CGT, il y a des propositions là-dessus.
Oui, il faut agir sur la baisse du prix de l'énergie, mais une réelle baisse. Il ne suffit pas de baisser le coût du kilowattheure et d'augmenter les taxes. Réinstaurer le tarif réglementé, inscrit dans le cadre d'une sortie du marché européen de l'énergie. Fixation d'un juste prix de l'énergie pour tous, tout à fait finançable. Le PPE, projet pour un service public de l'énergie, élaboré par la FNME-CGT démontre qu'il permettrait de réduire de 30% en moyenne tous les tarifs actuels. Donc il y en a des solutions.
Ce qui n'est pas négligeable.
Oui, et d'ailleurs, nos camarades de l'énergie auraient beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein.
Ils seront invités novembre ou décembre, je ne sais plus. Je regarderai la programmation pour en parler. Hein.
Tout à fait.
Si décembre est un peu plus froid, ils auront l'opportunité de s'exprimer là-dessus. Mais même si c'est doux, ils s'exprimeront quand même. Donc on les invitera. Ils sont prévus dans un des thèmes de mémoire de décembre. Hein.
On les réinvitera. D'ici fin d'année, on y reviendra.
Voilà, pour discuter là-dessus.
Alors,
Merci David. Eh ben, il nous reste un dernier thème, l'immigration.
Eh oui, l'immigration, c'est aussi un sujet important qu'il ne faudrait pas qu'on mette au placard. Hein, le Premier ministre, lorsqu'il est entré en fonction, il disait notamment « pas de grande loi sur l'immigration » ou encore « priorité à l'exécution, à l'application des mesures qui ont été votées ».
Oui, parce que je rappelle que quand même les réformes et les lois sur l'immigration, il y en a eu quelques-unes qui sont passées à l'Assemblée nationale.
Tout à fait.
Et certaines devaient d'ailleurs trop résoudre, on ne résout rien non plus.
Ouais, on a...
Mais on cible maintenant, ce qui est plus grave.
On cible, on a un arsenal de ce type de loi qui est étoffé depuis Sarkozy. Pour ne pas remonter qu'à l'époque 2007-2012. Mais il semble quand même contredire les velléités de son ministre de l'Intérieur, le très droitier M. Retailleau, n'est-ce pas? Puisqu'il y a plusieurs textes législatifs dans les tuyaux.
Des choses qui sont en préparation. Alors, je ne sais pas s'il aura le temps de les mettre en place, mais enfin, en attendant, c'est dans les tuyaux.
On ne sait pas, mais c'était dans les tuyaux.
Voilà.
Ça navigue dans les tuyaux, ça fait des allers-retours. Donc, il y a la révision du regroupement familial. Il y a le fait de restreindre l'accès aux prestations sociales pour les personnes étrangères et à l'aide médicale d'urgence. Il y a la durée de la rétention administrative, la révision de la circulaire Valls, qui permet en fait la régularisation des travailleurs sans papier au cas par cas. Et puis le Premier ministre qui souhaite quand même réguler l'immigration, renvoyer ceux dont la présence met en péril par leur nombre la cohésion de la nation.
Alors, petite parenthèse avant d'en arriver aux propositions de la CGT, je rappelle qu'en matière d'immigration, il rapporte plus à l'État qu'il ne coûte, contrairement aux idées reçues.
Mais ça, on ne le dit pas, personne ne le dit.
C'est les gens qui travaillent produisent des richesses.
Personne ne le dit.
Et on les spolie d'un certain nombre de droits auxquels ils pourraient prétendre, ne serait-ce que de s'installer et d'avoir des conditions de vie. Parce que quand on est bien installé, on travaille bien.
Moi, je voudrais dire, je fais encore une parenthèse, mais parce que je suis native d'un tout petit village du Loiret, où il y a un jour une centrale nucléaire qui est sortie de terre. Et cette centrale nucléaire, il n'y a aucun local qui voulait aller travailler. Donc on a fait venir des Marocains, des Algériens, des Portugais pour travailler dans cette centrale nucléaire. Aujourd'hui, j'entends des discours où on dit « Oh bah, y en a trop, ils sont trop nombreux ». Mais on a été content de les trouver. Alors je parle de cette centrale nucléaire-là, de ce sujet que je connais puisque je l'ai vécu, j'y habitais. Mais j'en oublie pas tous les étrangers qui ont fait la guerre pour la France. Il ne faudrait pas qu'on les oublie, que ce soit sur notre territoire ou que ce soit ailleurs. Enfin, ils sont venus gonfler nos Français, nos équipes de Français. Enfin, il faudrait que les gens y réfléchissent à leur discours contre les étrangers. Ça devient assez navrant. Ça devient assez navrant. Donc,
Là-dessus, est-ce que la CGT a des propositions
Oui, pour le dumping social, la CGT, elle demande la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à tous les travailleurs sans papier à partir de la simple preuve de travail. Parce que il y a une exploitation qui est faite de ces gens-là, mais ça, on n'en parle pas, mais il faut en parler. C'est-à-dire que tu as des employeurs qui embauchent des gens sans papier et ensuite ils se disent moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu.
S'il se passe quelque chose.
Pendant ce temps-là, on le paye trois fois rien, il ne cotise pas, etc. Donc,
ils sont souvent exploités.
Hyper exploités, même, tu veux dire. Il y a des fois, on les loge sur place dans des trucs miséreux.
Tout à fait. Enfin,
faut quand même qu'on ait tout ça.
Croyez ça d'un autre temps et c'est toujours.
Et c'est toujours. Donc il faut exiger la fin du pouvoir de l'employeur dans la délivrance des titres de séjour et puis l'égalité entre tous les travailleurs et les travailleuses et la régularisation de ces travailleurs sur les plateformes numériques. Voilà. À la CGT, nous, on exige un recrutement massif de personnel en préfecture pour que cessent les obstacles de rencontre que rencontrent les étrangers dans les démarches administratives. Je rappelle que quand même la première barrière, c'est la langue. Moi, je suis allé au Portugal, je ne parle pas le portugais. Et là, tu t'aperçois, tu dis, mon Dieu, mais comment ils font quand ils arrivent chez nous ? Ils sont souvent, ils ont fui leur pays, la guerre ou ce qu'on veut, la misère. Et ils arrivent là, ils ne parlent pas français. Oh là là, mais je me suis rendu compte, c'est terrible. Il faut qu'on ait tout ça à l'esprit.
Et c'est quand tu pars de chez toi, c'est jamais de gaieté de cœur. C'est poussé ou par la famine ou par la guerre.
Bah, évidemment.
On reparle de la guerre.
Voilà. Non, mais c'est quelque chose d'humain. Je veux dire, je pense qu'on réagirait pareil de la même façon si on était confronté à cette chose-là.
C'est clair.
Voilà. Résumer les propositions de la CGT, c'est loin d'être utopique. Ça mériterait quand même, de la part du gouvernement et des ministres qui sont en charge de ces questions, un petit peu plus de considération. Ouais. Voilà. Pour ça, il faudrait encore, j'imagine, malheureusement, de nombreuses luttes pour changer cette politique quand même néfaste pour les hommes et les femmes, et puis tout ce qui est vivant. Hein. Donc c'est vrai qu'il faudrait être massivement unitaire. Est-ce que ça c'est possible ? Je veux croire que oui, je veux croire qu'à un moment donné, les gens vont réfléchir, vont se secouer. Enfin, c'est pas possible de continuer comme ça. Voilà. Tout ça, ça serait possible avec un peu de volonté. Enfin, pour moi, il ne faut pas grand-chose. On ne sait pas ce qui nous attend demain,
non.
Ni les uns ni les autres. Aujourd'hui, on a un toit. Demain, tu ne sais pas. Tu sais pas. Et pour tes enfants, pareil. Et tes petits-enfants, pareil. Voilà.
Mais on peut faire pour que ça aille mieux.
Mais voilà, il faut se battre pour que ça aille mieux. Il faut faire front commun, que ce soit au niveau syndical, que ce soit au niveau politique. Ça, voilà, on va en reparler, bien entendu, mais... Je le redis, il faut être uni, il faut être solidaire, il faut arrêter de vouloir taper sur la tête de l'autre et de fermer les yeux quand on n'est pas soi-même dans l'embarras. Il faut s'aider, s'entraider, se soutenir, il faut monter au créneau. Voilà, il n'est pas trop tard pour nous rejoindre, comme dit le proverbe, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. bien sûr.
Mais l'intérêt, voilà. C'est ça.
On ne manquera pas, évidemment, de revenir dans les détails sur ces thèmes dans nos prochaines émissions. Mais en attendant, il ne faut rien lâcher.
Voilà, on ne lâche rien, c'est notre slogan. Voilà. Eh bien, une petite respiration. Alors, on enchaîne avec les... Alors, on arrive au terme de l'émission. La rubrique à vos agendas, parce que l'actualité, on a vu que c'était un petit peu remuant. Et puis, on va se revoir. Hein. Donc, on vous invite, dans le cadre de l'intersyndicale, il y a deux actions qui sont déjà programmées le 10 et le 18 septembre.
Oui.
Donc, il y a des rendez-vous qui sont prévus à Bourges, à Vierzon.
Oui, tout à fait, à Vierzon, à 10h30, place Jacques Brel, le 10 septembre. Donc, c'est un mouvement qui est parti cet été, un mouvement citoyen, parti des réseaux sociaux. Pour lequel la CGT ne pouvait que se joindre à cette action et on va voir qu'est-ce qui va se passer derrière. Mais dans tous les cas, le 10 septembre, la CGT sera là, sur Vierzon, 10h30, place Jacques Brel.
Et le 18 septembre aussi.
Voilà, il y a une...
10 et 18, hein, deux dates. Sur
intersyndicale,
lesquelles...
confirmée, hein, le 18 septembre, action intersyndicale, interprofessionnelle, où là aussi, il y aura quelque chose sur Vierzon. Je n'ai pas les détails à ce jour, mais... Regardez les réseaux sociaux, vous trouverez les informations nécessaires.
Oui, pas de souci. Au revoir à tous, merci beaucoup.
Merci à tous, merci à tous.
Rendez-vous le mois prochain.
Merci Marie-Jo.